Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Et attachez vos ceintures car aujourd'hui vous allez être sacrément secoués dans tous les sens, comme dans une voiture lancée à toute allure le long d'une falaise, prête à faire le grand saut dans le vide. Une curieuse métaphore pour un livre, me direz-vous, mais justement, c'est une histoire à la croisée de plusieurs routes qui se déroule dans une station-service entre 23h12 et 23h14 en plein été, où se retrouvent une quinzaine de personnages, si on compte le cheval et le cadavre dans le coffre. « Drôle d'endroit pour une rencontre », disait le film. Notre invitée, elle, a intitulé son roman, paru aux éditions de l'Iconoclaste, « Kérosène ». Et c'est en effet un livre hautement inflammable. Bonjour Adeline Dieudonné.
Bonjour.
Après La vraie vie, en 2018, votre premier roman, énorme succès, lu par 300 000 personnes, traduit en 20 langues, multiprimé et adapté au théâtre. Vous voici de retour avec une fiction qui s'inscrit dans la même énergie, avec d'ailleurs un clin d'œil avec un personnage récurrent. En tout cas, une fiction explosive, tendu comme un arc qui passe du noir au burlesque en une seconde et où on ne sait plus si on doit rire ou pleurer, tellement les situations que vous créez sont spectaculaires de densité et nous coupent le souffle. Mais bon, commençons par le début, je l'ai dit, un lieu, 15 personnages et à la fin, un drame. Entre-temps, chaque chapitre, à part un, est consacré à toutes celles et ceux qui se retrouvent par hasard dans cette station-service et qui vont être témoins de l'ultime épisode qui clôt votre livre. Comment s'est dessinée cette toile d'araignée? Est-ce que c'est à partir de cet endroit ouvert, public, traversé par des gens de tous âges, classe sociale et origine, ou à partir des profils que vous avez créés et que vous avez décidé de mettre en contact, un peu comme dans une expérience chimique, pour voir comment vos ingrédients vont réagir ensemble à des lieux donnés.
Mais il y a un petit peu, en fait, il y a un petit peu des deux. À la base, c'était des histoires que j'avais écrites qui étaient indépendantes les unes des autres. Et puis c'est comme quand on a des amis qu'on connaît de différents endroits. À un moment, on a envie de faire un dîner pour les réunir et effectivement pour voir comment ils vont réagir les uns avec les autres. Donc à peu près à mi-course, je me suis dit mais ce serait intéressant que tous ces personnages se rencontrent autour d'un lieu. Et c'est vrai que j'avais déjà écrit l'histoire de Chelly qui commençait dans une station-service. Et je me suis dit, cet endroit est magique parce que c'est un endroit où c'est intéressant d'observer les gens. Ils viennent de quelque part, ils vont quelque part, on sait pas où. Et ils ont certainement chacun quelque chose à raconter. Et en même temps, ils se croisent sans vraiment se rencontrer. Et c'est un endroit qui, je trouve, en plus évoque les vacances. Et là, c'est un soir d'été. En plus, c'est dans les Ardennes. C'est dans une région très boisée. Donc, il y a un côté un petit peu hors du temps aussi de cet endroit.
Et puis c'est une métaphore de l'existence. On arrive, on mange, on boit, on reste un petit peu, on prend de l'énergie via l'essence, ouais. On s'en va, ouais. Et puis on est remplacé. Bref, c'est la vie.
Exactement, on ne fait que passer. Ouais.
Parlons donc de ces personnages. Cette femme, plus une, Juliette, qui tient la caisse, qui n'a pas son propre chapitre, mais qui néanmoins est là, un cheval, je l'ai dit, Red Apple, 5 hommes, plus un mort dans le coffre. Alors, avant de faire un peu plus leur connaissance, je me demandais ce qu'il est relié, selon vous, parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit représentatif d'un panel de la société, mais il me semble avoir vu qu'il y avait quand même d'un côté des dominants et de l'autre côté des dominés. Est-ce que, effectivement, et à commencer par Shelley, justement, qui ouvre ce roman, qui, elle, se place clairement du côté des prédateurs, sans doute pour ne pas être une proie, d'ailleurs, est-ce que vous nous diriez que c'est peut-être ce qui les rassemble?
Oui, c'est possible. Après, c'est pas du tout une chose à laquelle je pense au moment où j'écris, parce que vraiment, moi, j'écris des histoires qui m'intéressent, qui m'amusent, dans lesquelles j'ai envie de me plonger. Donc, c'est vrai que je me pose pas la question de vouloir faire un portrait sociologique fidèle, mais c'est vrai qu'on a un petit échantillon on a un petit échantillon d'humanité là, et oui, ils sont tous en prise avec des rapports de domination, ça c'est sûr, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, du ou même parfois des deux, parce que il y a ces personnages qui se révoltent, qui changent de camp aussi. Et alors le personnage de Chelly, ça c'est vrai que elle c'est une vraie prédatrice.
Alors elle, quel âge elle a, à quoi elle ressemble-t-elle?
Bah pour moi elle a la trentaine. C'est une jeune femme qui correspond assez bien au canon de beauté classique, c'est-à-dire que elle
contemporain, vous voulez dire
contemporain, oui c'est ça. Mais donc c'est une fille mince, elle est prof de pole dance, elle est surtout instagrammeuse, elle a 43 700 abonnés sur Instagram, ce dont elle est très 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 fière. Donc c'est une jeune femme qui vit dans la banlieue de Bruxelles avec son mari Nicolas, et voilà, et en fait ils se sont rencontrés une dizaine d'années plus tôt. Ils se sont mariés, ils ont acheté un petit pavillon ensemble, sauf qu'ils n'ont pas avancé du tout au même rythme. Enfin, en tout cas, Chelly n'est pas du tout satisfaite de son mari. Et elle ne supporte plus parce qu'il mange des chips directement dans le paquet et qu'elle elle lui a déjà dit 200 fois de mettre un bol. Et qu'en plus, elle trouve qu'il se lamente beaucoup, qu'il se plaint beaucoup de son travail. Et elle voudrait être avec un vainqueur, elle voulait être avec MacGyver à la base. Et donc, elle est déçue. Elle est déçue parce que elle voudrait régner sur le monde avec son mec et il la suit pas.
Et résultat, on peut le dire, elle lui plante un couteau dans le dos.
Ouais.
Voilà.
On peut dire ça.
C'est le premier chapitre, on dévoile pas trop et voilà pourquoi le cadavre dans le coffre. Et en même temps, il y a une autre femme, Alika, qui elle est une nounou des Philippines, traitée comme un meuble par ses employeurs, à tel point qu'il la prête. Ouais. À un autre couple pendant qu'ils sont en vacances.
Elle attend dans la station-service qu'on vienne la rechercher parce qu'effectivement, elle a été prêtée à un couple d'amis pour les vacances. Mais comme ça n'arrangeait personne de la ramener, ils l'ont laissée là dans la station-service en disant « Bon, on viendra te chercher en rentrant de l'aéroport. » Donc, elle doit passer 4 heures dans cette station-service. Et elle, c'est vrai qu'on va la retrouver quelques mois plus tôt dans des vacances qu'ils ont passées au sport d'hiver avec ce petit bébé qu'elle tient dans les bras et qui ne dort que dans ses bras. Et donc, elle est complètement épuisée, évidemment. Elle a ce bébé dans les bras H24. Et surtout, elle peut même pas se coucher parce que la maman de l'enfant a vu passer des articles dans lesquels on parlait de bébé mort étouffé par quelqu'un qui s'endormait à côté d'eux. Donc, elle est obligée de rester assise tout le temps. Et oui, ça va être elle. On va la suivre pendant une nuit où le drame de sa nuit, c'est qu'elle a simplement, ce qui est arrivé à peu près à tous les parents du monde, oublié d'aller racheter du lait en poudre. Mais sauf que elle sait que si ses employeurs se rendent compte qu'elle a commis cette erreur, ça pourrait lui valoir un aller simple pour les Philippines, ce qui serait absolument dramatique parce qu'elle a 12 enfants qui l'attendent là-bas et qui compte sur l'argent qu'elle envoie pour pouvoir faire leurs études. Donc effectivement, si on doit reprendre le rapport dominant-dominé, elle est clairement du côté des dominés. Et c'est peut-être le seul personnage du livre qui n'a absolument aucune porte de sortie, aucune échappatoire. Elle est vraiment... Il y a certains personnages qui se mobilisent et qui essayent de lutter contre la situation dans laquelle ils sont. Alika, elle peut juste rien faire. Elle est prisonnière, mais alors elle va avoir effectivement pendant toute cette nuit tout un tas de réflexions sur l'état du monde et sur l'absurdité de cette situation d'esclavage moderne.
On continue à faire connaissance de certains de vos personnages. Je m'arrête sur Julie, qui accompagne son mari Olivier. Alors eux, ils sont là pour déménager la grand-mère Monica.
Oui.
C'est une jeune épouse, apparemment douce et docile.
C'est moi
je ris parce que en fait, oui. On va apprendre très vite qu'elle a contaminé volontairement son mari, qui par ailleurs est gynécologue et hygiéniste, avec des maladies vénériennes. Oui. Donc ça aussi, c'est un cas de figure extraordinaire, parce que a priori, c'est une femme soumise, et en fait, c'est elle qui a imposé cette horreur dans son couple, et en même temps avec lequel elle semble vivre assez bien.
Assez bien, elle frôle quand même la folie, mais c'est vrai que ça va être un petit peu son système de défense à elle, c'est qu'à un moment elle en peut plus de cette vie complètement absurde où elle vit avec son gynécologue de mari et les parents de celui-ci parce qu'ils
sont aussi gynécologues,
qui sont des gynécologues à la retraite et tous obsédés par l'hygiène. Donc pour entrer dans l'appartement qu'elle occupe avec son mari, il faut passer par le pédiluve dans lequel elle doit remettre du Dettol chaque jour.
Et donc, se laver les mains avec ce fameux gel antibactérien qui est devenu notre objet quotidien. Vous avez été presque avant-gardiste sur cette question hygiéniste.
Oui, 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 parce qu'en plus, c'est vrai que c'est une nouvelle que j'avais écrite avant le Covid. Mais oui, sur ces personnages, ils sont complètement obsédés par l'hygiène et surtout qui observent ce qui se passe dans son utérus parce qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'elle soit enceinte. Et ils la farcissent de compléments alimentaires. Et elle, en fait, elle n'est qu'un ventre pour cette famille. Et c'est vrai que ça va être un petit peu son seul moyen de se défendre à un moment, c'est de contaminer ce ventre et donc de s'auto-contaminer pour... Mais voilà, mais après, c'est une situation complètement délirante. C'est une espèce de feu d'artifice comme ça de MST à la fin, parce qu'elle décide de poser un acte. Mais c'est une des nouvelles sur lesquelles, je pense, je me suis le plus amusée, parce que c'est vrai qu'on est dans une situation qui est complètement rocambolesque, complètement absurde. Et en même temps, pas complètement... il se passe rien de surnaturel non plus. Et c'est vrai que j'interroge la docilité. Parce que Julie, avant tout, c'est une fille qui veut avoir l'air... qui veut passer pour une fille gentille, parce qu'on lui a toujours dit toute sa vie, toi tu es gentille, tu dis toujours oui, et donc elle essaye de se conformer à ce qu'on attend d'elle, mais sauf que évidemment à un moment ça a ses limites.
Voilà, j'avais envie avec vous, Adeline Dieudonné, qu'on évoque un peu en détail quelques-uns de ces personnages, en l'occurrence des femmes, mais il se trouve que elles sont puissamment évocatrices. Et de voir surtout que en chacune de ces personnes, il y avait une vraie charge de violence, soit subie, soit prête à se déverser, et qu'il suffirait d'une étincelle, et peut-être l'étincelle à l'image de ce titre des Doors que vous citez, Light My Fire, que je vous propose d'écouter maintenant. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Through, no time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Sur ce titre des Doors, Light My Fire, nous poursuivons cette conversation sur RFI dans Littérature sans frontières avec Adeline Dieudonné, qui vient de publier son deuxième roman sous le titre Kérosène. aux éditions de l'Iconoclaste, un récit mosaïque, on l'a dit, où se croisent une quinzaine de personnages sur une aire d'autoroute et dont on découvre par flashback leur vie, leur profil et les raisons qui les ont amenés à se retrouver ici ensemble et bientôt témoins d'un drame dont on ne dira rien. Et c'est un roman aussi qui se distingue par son écriture, très libre, très débridée, pour ne pas dire sauvage, dans la description des situations intimes, des sentiments abjects, des réflexions personnelles parfois honteuses, et le tout dans un grand éclat de rire macabre. Et d'ailleurs, le seul personnage qui n'est pas ridicule, de mon point de vue, c'est le cheval. Red Apple, que vous faites admirablement bien parler, Adeline Dieudonné. Lui aussi, il est sur cette aire d'autoroute, vers un destin funeste. Et c'est une voix animale qui fait écho à d'autres animaux dans votre récit. Un dauphin, une truie, un chat, un chien, un loup. Quel rôle joue-t-il dans votre zoo humain ?
Bah moi, j'ai toujours aimé les animaux. J'ai toujours été entourée par les animaux. Donc, c'est vrai que pour moi, ils font vraiment partie de ma vie, de mon univers. Et donc, c'est assez naturellement qu'ils font aussi partie de mes livres. C'était déjà le cas dans mon premier roman, La vraie vie, où les animaux étaient très présents. Et après, c'est vrai que là, il y a de nouveau les rapports de domination. En fait, quand même pas mal de rapports de domination qui sont observés dans ce livre. La domination masculine, évidemment, la domination de classe et effectivement la domination que nous exerçons sur les animaux. Donc là, il y a ce petit cheval Red Apple qui est un petit cheval super, complètement exceptionnel, qui a un destin incroyable et qui est effectivement hyper touchant. Et c'est aussi de voir à quel moment est-ce que ce qu'on impose au monde vivant, par extension, aux animaux dans Kérosène, mais je pense que ça s'applique vraiment au monde vivant, comment est-ce qu'à un moment ça peut se retourner contre nous, de nouveau, ce rapport de domination, comment est-ce qu'il peut se renverser? Et donc on le voit avec effectivement Red Apple qui un jour est obligé, contraint de se défendre. On le voit avec le dauphin, qui est aussi, lui, il devient fou.
Alors ça, c'est une autre histoire.
C'est encore une autre histoire.
Mais qui est intéressante à raconter, évidemment, parce que là, vous désamorcez tous les clichés où les dauphins, c'est mignon, on les adore. Oui, ce sont certainement des animaux formidables, sauf s'ils sont dans un parc aquatique et qui subissent l'enfermement et la violence des maîtres. Et à un moment, le gentil dauphin, il se révolte et lui aussi peut être capable de violence et en l'occurrence contre une jeune fille de 12 ans à l'époque.
Mais oui, tout à fait. Et qui elle, pour le coup, n'a rien demandé à personne, la pauvre. Mais oui, j'avais vu ce documentaire incroyable qui s'appelait Blackfish sur un orque dans les parcs aquatiques. C'est un orque qui a tué 4 personnes tout au long de sa vie, des dresseurs. Parce qu'en fait, il devient fou. Parce que c'est des animaux qui sont pas du tout faits pour être enfermés. Mais là, c'est pas mal. Il y a une loi qui est passée en France maintenant, qui interdit la reproduction des dauphins en captivité. Donc c'est bien. Ça va s'arrêter. Et je pense qu'effectivement, il fallait que ça s'arrête.
Néanmoins, les chevaux de course, la façon dont ils sont traités, parfois d'ailleurs comme des athlètes et ils sont infiniment choyés, mais après quand ils ne gagnent plus de course, on les abandonne, et s'ils se cassent une jambe, on les tue. Les dauphins, on l'a dit, prisonniers, les bêtes qui sont envoyées à l'abattoir, c'est dans un autre chapitre. Est-ce qu'il y a, sans le vouloir forcément bien entendu, mais entre les lignes, une réflexion donc sur la condition animale, Adeline Dieudonné?
Oui, mais de nouveau, effectivement, sans le vouloir. Mais oui, en tout cas, et même au-delà de la condition animale, l'appropriation des corps. Comment est-ce qu'on s'approprie le corps de l'autre, que ce soit le corps de l'animal, parce qu'on veut le manger, parce qu'on le met en captivité, parce qu'on l'utilise et quand il est plus utile, quand il est plus bon à rien, comme vous dites, on l'élimine. Mais l'appropriation aussi des corps humains. Et c'est vrai que je me rends compte, a posteriori, que c'est au cœur de ce livre. On le retrouve partout. Voilà, l'appropriation du corps, du ventre des femmes qui doivent à tout prix être des génitrices, l'appropriation des corps des classes sociales moins favorisées qui ont tout à coup moins de valeur que les corps des riches. Donc, c'est vraiment, je crois qu'il faut absolument qu'on sorte de ces rapports de domination, mais à tous les points de vue et je pense qu'on peut difficilement examiner un rapport de domination sans tous les prendre en compte. Et donc c'est ça que je trouve fabuleux aujourd'hui, c'est que quand on parle de féminisme, on parle aussi de lutte contre le racisme, de lutte contre le classisme, contre l'agisme, contre la grossophobie, contre le validisme. Voilà, c'est toutes des luttes qui vont, je pense, vont ensemble et ne peuvent pas s'opposer.
Après, ça c'est une analyse à la lecture. Évidemment, on est pris par ces personnages, même s'ils incarnent tous à un moment quelque chose. Et à ce titre, parlons de Monica, par exemple.
Oui.
Déjà rencontrée donc dans votre premier roman, La vraie vie, c'était la sorcière que les enfants allaient voir. Et là, elle illustre précisément le traitement des personnes âgées dans notre société, mm-hmm. puisque c'est une femme qui ici est expulsée de la cabane où elle vit depuis 50 ans et qui est emmenée contre sa volonté par son petit-fils, on ne sait pas où d'ailleurs, sauf que elle, Monica, elle est bien tentée de faire comme l'écrivain Romain Gary, se suicider. Est-ce que vous voulez bien d'ailleurs nous lire un extrait où on l'entend s'exprimer et que c'est pas la dame que l'on croit certainement?
Absolument, avec grand plaisir. Monica va jeter sa canette vide dans une poubelle. Elle songe aux derniers mots de Romain Gary dans la lettre qu'il a laissée avant de se suicider en 1980. « Je me suis enfin exprimée entièrement. » Elle a fini de s'exprimer depuis longtemps déjà. Peut-être qu'elle aurait dû mourir comme lui à l'âge de 66 ans. Il n'existe pas de luxe plus grand que celui de choisir le jour de sa mort, la dernière bouche qu'on embrasse, le dernier regard qu'on échange, les bras qui vous serrent au moment de partir, les forêts du Mullertal. Ce sera son dernier choix.
Merci beaucoup. Est-ce que la question de la fin de vie, c'est un sujet qui vous importe? Et peut-être particulièrement en ce moment, à ligne donnée, non? Quand on voit les ravages de la pandémie sur justement les derniers jours que passent certaines personnes.
Oui, tout à fait. Et de nouveau, c'est vrai que c'était pas une volonté au moment où je l'écrivais, mais oui, clairement, la pandémie a une influence sur mon écriture parce que c'était absolument insupportable ce qui s'est passé d'une cruauté sans nom. Tous ces gens qui sont morts sans avoir la chance de dire au revoir à leurs proches, sans pouvoir être touchés aussi, parce qu'à un moment dans la pandémie, on en était là à être uniquement accompagné éventuellement par des gens en combinaison, mais donc perdre complètement ce contact humain, bien sûr ça a dû me traverser. Et la question de la fin de vie et des choix, et là c'est vrai que c'est une dame, Monica, qui a 90 ans et qu'on infantilise complètement sous prétexte qu'elle est vieille, alors qu'elle est encore parfaitement capable de faire ses choix. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas la possibilité? Après, je sais que ça pose d'autres questions hein, qui sont extrêmement épineuse, difficile, éthique, mais je trouve qu'on a encore énormément de progrès à faire à ce niveau-là. Voilà. Mais donc c'est une question qui me touche beaucoup et
alors
forcément.
Alors que vous êtes si jeune encore, c'est étrange.
Oui, mais j'ai perdu. Voilà.
Vous n'avez même pas 40 ans, n'est-ce pas?
J'ai pas encore 40 ans, ouais. Non. Donc je serai pas vaccinée avant un bon moment. mais on a tous perdu des gens. J'ai perdu, j'ai perdu mes grands-parents et je suis triste. Voilà, je suis triste de la dernière année qu'a vécu ma grand-mère où elle en avait marre, où ça n'allait pas, et je me suis dit, mais enfin pourquoi est-ce qu'on lui fait subir ça alors qu'on sait très bien que ça va pas aller mieux, que la vieillesse a priori on n'en guérit pas, et que donc est-ce qu'à un moment quand elle demande qu'on la laisse partir et qu'on l'aide à partir, pourquoi est-ce que c'est si compliqué que ça?
Monica, à qui vous faites dire d'ailleurs très justement, Aline Dieudonné, qu'elle en a assez des formules toutes faites. Alors moi, j'ai vraiment été marquée par cette phrase parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que vous écrivez tout sauf des formules toutes faites. Vous êtes même au-delà de toute attente, dans un style sans aucun filtre, quasi provoquant. D'où vous vient cette liberté de ton?
J'ai énormément d'admiration pour les humoristes en fait. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis pas mal inspirée d'eux et de leur sens de la formule, ce qu'on appelle la punchline. Je trouve ça assez extraordinaire et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de me réapproprier. Et je pense que il y a vraiment une porosité hein, dans les genres et j'ai aucun problème à dire que, enfin, ma littérature est inspirée par les humoristes. Alors moi, je fais pas de l'humour. même si en l'occurrence il y en a beaucoup dans Kérosène, c'est un livre que j'ai voulu très libre et donc très drôle aussi.
Enfin, c'est de l'humour noir.
C'est de l'humour noir, c'est grinçant, mais mais j'aime beaucoup ce sens de la formule parce que ça permet de faire passer des idées avec très peu de mots, avec une économie et pour moi c'est très très important ce travail de concision parce que ça permet aussi au lecteur de faire son chemin et je trouve que ce travail de concision justement fait confiance à l'intelligence des lecteurs et donc j'aime bien ces phrases un petit peu coup de poing qui viennent ou ce côté incisif parce que ça permet avec très peu de mots d'exprimer finalement énormément de choses et c'est pour ça que j'adore l'humour aussi, c'est parce que finalement ça permet parfois de dire en une phrase ce qu'on mettrait 200 pages à dire si on le disait au premier degré.
Et pour retomber dans le cliché et ça je l'assume, est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi l'école belge puisque vous êtes bruxelloise et que vous avez grandi aussi en Belgique.
Je sais pas. C'est vrai que beaucoup de gens me le disent. Après, moi, je suis mal placée pour en parler puisque étant belge, j'ai pas le recul, j'ai pas votre regard de français sur ce que nous on fait les Belges. Mais c'est vrai que chez nous, pour revenir aux humoristes, on a un vivier qui est quand même absolument extraordinaire. On a une scène incroyable. Et je crois que oui, il y a aussi un petit décalage culturel avec la France qui fait que pour vous, il y a peut-être un exotisme chez les Belges que nous on perçoit pas nécessairement, mais qui vous.
Alors je parlerai pas d'exotisme, mais en tout cas un savoir-faire certainement pour balayer les frontières et faire du politiquement incorrect s'il le faut. En tout cas, ne pas se laisser censurer par quoi que ce soit. Mais est-ce que des fois vous freinez un peu à Aline Dieudonné? Vous vous faites violence?
Non.
Pour pas trop choquer ou non?
Non, je vais vraiment
où vous avez
là où je veux. Je m'interdis rien du tout au moment où j'écris en me disant toujours si je dois censurer ou si je dois couper des choses, je le ferai dans un deuxième temps et dans un deuxième temps, je le fais jamais.
Oui, il y a une vraie jubilation. Toute dernière question, qu'est-ce que vous avez appris sur vous après l'écriture de ce livre et peut-être des deux, La vraie vie et Kérosène. Est-ce que ça a révélé quelque chose en vous que vous n'aviez pas encore mesuré?
Oui, bien sûr, ça a révélé, ça m'apprend énormément de choses. Ça m'apprend déjà que je suis beaucoup plus torturée que ce que je crois, que j'ai des côtés sombres, j'ai des inquiétudes. Enfin, c'est un vrai travail d'introspection, l'écriture. Donc, ça m'apprend à me regarder en face, à me dire la vérité, et du coup à dire la vérité au monde. Et c'est ça qui est fabuleux. Moi, j'ai commencé à écrire tard, et donc c'est aussi le regard de mon entourage qui a changé. Je suis une fille plutôt sympa, souriante, toujours agréable. Et puis tout à coup, les gens qui me lisent et qui disent ah oui, mais il y a tout ça. C'est à la fois cette noirceur, mais cette ironie chez toi, ce regard un petit peu mordant. Et c'est une belle surprise, je trouve, de pouvoir révéler ces côtés plus sombres et parfois moins avouables et de les assumer, de dire oui, ça fait partie de nous, c'est ça qui fait de nous des humains.
C'est un peu l'histoire de la fille alors qui a l'air de vouloir toujours dire oui et d'être sympa et puis à un moment qui par l'écriture dit oui mais je suis aussi autre chose.
Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Oui, mais si c'est sûr que si je dois choisir un personnage, le personnage auquel je ressemble le plus dans le livre, c'est certainement celui de Julie, oui.
Merci beaucoup Adeline Dieudonné d'être venue nous parler de ce livre extraordinairement jubilatoire qu'on lit avec un immense plaisir et surtout qui nous voilà qui nous met un peu les doigts dans la prise hein. On le lit et il y a une décharge électrique systématique à chaque page à chaque personnage. C'est vraiment un livre littéraire formidable et à tout point de vue. Merci encore, je rappelle qu'il s'intitule Kérosène et qu'il a été publié aux éditions de l'Iconoclaste.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.